Donc là, on a vraiment une diversité de styles. Ce qu'on va retrouver dans le café, c'est Sandrine Perron et son univers proche du quotidien. On a deux séries qui sont présentées ici. Une série qui s'appelle Bernique et, comme son nom l'indique, représente ces petits crustacés qu'on trouve sur les rochers qui sont symboliques de la Bretagne. Mais elle les représente d'une manière très synthétique, proche quasiment de l'abstrait, en donnant beaucoup d'importance au plein et au vide. Ce sont des œuvres en noir et blanc qui sont extrêmement synthétiques, qui peuvent faire penser à la fois à des berniques, à des montagnes, à des rochers, à des paysages. Elle présente également, cette artiste, une autre série qui est de la même manière tirée également de la réalité du quotidien. Ce sont ces petites robes de fête, robes migraines, robes ruches, toujours avec du noir et blanc sur lequel apparaît donc quelques touches de couleur. Voilà, donc ça c'est le travail de Sandrine Perron qui tend vraiment beaucoup vers l'abstraction. Autre artiste également présente dans cette exposition, Ximena de León Lucero, qui est une artiste argentine qui habite et travaille à Morlaix et qui, elle, travaille beaucoup sur les formes organiques et minérales, mais pour parler de l'humain. Effectivement, on a devant nous donc des tableaux en noir et en rouge sur lesquels apparaissent des sortes de plantes un peu vénéneuses. On pourrait imaginer également des grands insectes. Et en fait, c'est une métaphore un petit peu des rapports humains. Parce qu'on voit que ces plantes, alors ici, vous voyez, il y a une sorte de grande fleur grenat avec une petite forme qu'on pourrait croire être un insecte. Et ces deux formes vivantes-là symbolisent un petit peu le dialogue entre êtres humains. Ce qu'on retrouve également dans sa deuxième série ici, on peut imaginer à la fois des rochers ou des êtres vivants comme des baleines qui discutent. Des baleines qui discutent entre elles, en fait, des formes vivantes qui discutent entre elles. Et ça aussi, c'est la communication, les rapports humains, la difficulté dans les rapports humains et dans le dialogue avec l'autre qui est représenté. Voilà. Un trait tout en finesse, vous l'observerez. C'est vraiment un très, très beau travail.
Les traits sont très fins.
Très, très fins. Ça demande des heures et des heures de travail à la pointe sèche. Très beau travail de Ximena. Quasiment face à face, ici, nous avons Kwang Soo Kim, qui est une artiste coréenne installée à Brest, rue Victor Hugo, la Galerie 66. Alors elle, pareil, elle est inspirée également par la nature. La nature, on est également là entre figuratif et abstraction. Ce qu'on a devant nous, ce sont des œuvres très colorées, avec vraiment des couleurs très intenses. Du bleu outre-mer, du bleu cobalt, du jaune d'or, également du noir, du rouge vif, et également donc une référence à la nature à travers des feuilles ciselées, des squelettes de feuilles, du corail également, du tissu également. Alors le tissu, on pourrait croire qu'elle l'a, je dirais, presque imprimé directement, mais non, elle l'a tout dessiné. Elle a tout dessiné.
Ça doit demander beaucoup, beaucoup de travail.
C'est énorme, énorme. Et c'est une artiste qui, comme Thomas, qui, comme beaucoup d'autres artistes graveurs, utilise différentes techniques. Ils font un petit peu tous leur cuisine. Donc là, on aura à la fois de la taille directe, donc avec des instruments qu'on a vus tout à l'heure, pointe sèche, burin, etc., mélangé avec de l'aquatinte, donc un travail de l'acide aussi, ce qu'on appelle de la taille indirecte, en fait. Voilà. Donc chacun un petit peu sa recette, Thomas, et voilà ce qui donne des choses assez extraordinaires comme ça. Voilà.
Le travail de Thomas Godin est inspiré de ses voyages ainsi que de l'horizon de sa Bretagne natale. Ses œuvres lui ressemblent, fragiles et puissantes à la fois, délicates et brutes. Un monde onirique, un cri de liberté. Le monde d'un artiste voyageur qui cherche l'horizon loin devant.
Je m'appelle donc Thomas Godin, je suis artiste, peintre-graveur. Donc je suis installé à Landerneau, j'ai un atelier galerie dans la rue piétonne de Landerneau. Et voilà, mon travail, c'est de la gravure majoritairement, mais mon travail, la gravure a une approche un petit peu plus picturale que la moyenne, on va dire, que la gravure de manière générale. Et voilà, vous avez mon travail autour de vous, c'est plus, c'est assez coloré, je veux dire.
Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu vos œuvres, si vous en avez une préférée en particulier ?
Alors, eh ben, je les aime toutes, elles ont toutes une histoire. Bon, là, si on va sur les cercles, là, on est. L'histoire, elle a commencé il y a quelques années. Donc, elle n'est pas ici. Enfin, c'est une série inspirée du Bénin. Il y a quelques années, on a, on a mélangé la musique vaudou, la musique bretonne, le jazz, avec un ami donc, de Saint-Paul-de-Léon, un béninois, qui est petit-fils du roi du Dahomey. Le Dahomey, c'est en Afrique de l'Ouest, c'est l'ancien nom du Bénin. Et donc on a été invité par le Ballet du Bénin à faire une tournée dans tout le pays. Et ce sont ces cercles-là, ce sont des bijoux de cérémonie vaudou.
Okay.
Ils ont autour du cou à l'origine. Et donc c'est un symbole universel qu'on retrouve dans toutes les cultures, enfin, dans les arts premiers, que ce soit chez les Celtes, en Afrique, en Océanie, en Asie, enfin partout. Enfin, le disque de jade, enfin, c'est un symbole universel. Et quand je suis rentré de ce voyage, je sais pas, j'ai eu envie de faire quelque chose là-dessus. Enfin, j'avais une musique qui tournait en boucle en tête, tout simplement vu qu'on jouait du matin au soir, du soir au matin. C'était... Et donc j'ai fait ce disque, enfin une réinterprétation d'un disque de cérémonie, justement. Et j'ai continué. Et donc j'ai présenté cette série donc à une exposition aux Philippines, en Asie, au centre du pays. Et ça leur a immédiatement parlé. Et donc j'ai continué la série en allant un petit peu à la rencontre des là en l'occurrence c'était les gitans des mers, donc les peuples sans terre, donc qui vivent sur leurs bateaux, qui naviguent dans l'archipel. C'est un pays archipélique, les Philippines, il y a 7200 îles. Et donc ces gitans des mers, en mer en fait, leur mort en terre, donc sous la mer. C'est toute une culture pareil, enfin une partie, voilà, une culture animiste, une culture voilà, polythéiste. Où on retrouve ces symboles aussi, voilà, je sais pas, ça me parle tout simplement, quoi. C'est lié à mon histoire, à mes voyages, aux gens que j'ai rencontrés.
Vous vous inspirez de vos voyages pour réaliser vos œuvres.
Ouais, toujours. Ouais. Bon, là, c'est deux annuels, ça veut dire des hauteurs, d'en haut en breton, on va dire.
Pourquoi est-ce que vos œuvres sont nommées en breton ?
Parce que je le parle, je suis proche de cette langue, cette culture. C'est
pour
moi, c'est important, quoi. C'est vain, toutes les histoires. C'est bien beau de voyager, de prendre un week-end pour aller à l'autre bout de l'Europe ou 15 jours pour aller en vacances à l'Incloud.
C'est une attache à la Bretagne.
C'est une attache à la Bretagne. Et c'est quand je parle de voyage à l'Incloud, de machin, tout ça, c'est vain, quoi. Je veux dire, le vrai voyage, il commence ici. Il se continue ailleurs, quoi, et inversement. Et c'est-à-dire que les deux se répondent pour moi. Et c'est un voyage, c'est pas partir en vacances. On part à l'autre bout du monde, voilà, on s'imprègne, on regarde. Et au travers du prisme de ce qu'on connaît ici. Et inversement, quand je suis ici, je pense à là-bas. Et il faut une attache profonde, quoi. Il faut être enraciné très profond. Et on peut pas raconter de vraies histoires, d'histoires profondes, d'être sincère. C'est la forme sans le fond.
Comment est-ce que vous réalisez vos œuvres ?
Alors, j'ai pas vraiment de règles. Pour moi, c'est juste mon regard, mais la gravure, souvent, c'est. C'est pour être convention de règles. Pas pour tout le monde, évidemment, pas ce qu'il y a autour de nous, mais pas les autres graveurs non plus. Mais bon, c'est souvent très classique. On va faire une école où, voilà, faut pas sortir des lignes, quoi. Faut pas sortir du cadre. Moi, j'en ai pas du tout, quoi. C'est des mélanges de techniques qui viennent pas de la gravure, mais qui en deviennent au final avec des mélanges de sucre, de poudre, de tout ce qui me passe sous la main au final. Quand j'ai une idée en tête, j'ai une idée en tête, je veux une matière, je veux un trait, une poésie quelconque à un endroit, je vais tout simplement chercher. Et donc, je sais pas si. Bon, là, pour celle-ci, vu qu'on en parlait. C'est tout simplement des. suis pas le seul, j'ai pas inventé la poudre. Je pense que chaque graveur a sa cuisine, de toute façon. Pour moi, là, c'est des mélanges de colle, de sucre. Je vais venir peindre, faire sécher au décapeur thermique, etc. Épargner, faire des réserves pour faire en sorte que l'acide creuse partout autour, plutôt que de vernir une plaque et de venir faire mon dessin gratté de vernis.
D'accord.
Je vais faire l'inverse, en fait. Je la remets... c'est là où rentre l'aspect épiphain. C'est-à-dire, le travail du peintre, c'est que je fais mon sujet, je viens de peindre mon motif directement sur la plaque, au lieu d'enlever, au lieu de gratter, comme un jeu à gratter, au final. Mmh.
C'est un processus qui est long. Enfin, ça dépend selon les gravures. Mais...
C'est... Très souvent, oui. Après, il y a des coups de chance, c'est des hasards heureux, on va dire. Mais... Là, par exemple, pour celle-ci, voilà, on va dire de Ralloaru, c'est à la fois une sculpture, une peinture et une gravure. Mmh. Parce que on a le sujet, la forme de la plaque donc, que j'ai découpée. Et donc, j'ai commencé sur une plaque qui faisait peut-être 1m50 et au final, elle s'est réduite comme peau de chagrin parce que je n'avais pas la forme que je voulais. Je redécoupais, je repassais jusqu'à avoir quelque chose que je trouve harmonieux. Je ne sais pas qui... Voilà, je sais que c'est là, quoi. Je n'aurais pas vraiment l'expliquer, c'est comme ça. Mmh. Et donc, voilà, le premier travail, c'était ça. C'était d'avoir la forme voulue, que la plaque ait la forme voulue. Ensuite, j'ai la gravure, je veux dire, les strates de gravure, les différents bains d'acide successifs qui vont permettre d'avoir, si j'agrandis cette plaque, enfin, si je fais une coupe transversale, je la coupe en deux, je fais une coupe transversale et j'agrandis. Et dans cette plaque, je vais avoir 10 ou 15, on va dire, strates différentes profondeurs.
Oui, d'accord.
Et donc, si tu veux, on va commencer, je vais avoir un trait à 1 cm, je vais en avoir un à 5, je vais revenir en avoir un à 3, et ainsi de suite. Et donc, en dents de scie, comme ça. Et plus le creux sera profond, plus il va garder d'encre, plus je pourrai mettre de couleur. Donc,
d'accord.
Là, c'est la gravure. Et ensuite, une fois que j'ai cette plaque-là, que j'en suis content, que j'ai fait des tirages, tu vois, je l'ai ancré, je l'ai passé sous presse pour voir voilà, si l'harmonie est bonne. Vient l'aspect vraiment le travail du coloriste et du peintre. Parce que je vais venir avec des encres à l'huile, des encres à l'eau, des encres très sèches, des encres à l'huile émulsifiées. Je vais faire vraiment ma cuisine, jouer comme en peinture classique. En peinture classique, on a ce qu'on appelle le gras et le maigre. Enfin, la peinture à l'huile, la peinture à l'eau. Peinture écrite qui ne se mélange pas au final et qui permettent d'avoir un désir.
C'est un peu libre, mais c'est aussi minutieux, quoi. Enfin,
c'est ça.
Enfin, c'est compliqué, quoi. Faut trouver la.
Bah, l'équilibre.
Vous savez où vous allez quand.
Bah, j'ai une idée, j'ai un monde en tête, j'ai quelque chose, un univers, quelque chose que je veux. Voilà. Et les réponses viennent aussi en évoluant, quoi, au fur et à mesure du travail, quoi. Mmh. Je, dans la mesure où en plus c'est pas figuratif, c'est entre les deux, quoi. Il y a certaines gravures, vous avez vu, voilà, on peut reconnaître des formes, des choses. Et je sais que je veux cet esprit, mais vous dire si ça va être ici, là, là-bas.
Oui. Faut pas trop prévoir.
Non, ça me donne les réponses au fur et à mesure, et puis c'est à l'instinct, quoi. J'ai pas vraiment de réponse précise à apporter, quoi. Je m'en excuse. Même pas.
Ah, c'est ça le matériel, d'accord.
Oui, tu vois.
Avec des couteaux aussi.
Mais c'est pour mélanger mes encres.
Ah, d'accord.
Puis vu que je suis pas très soigné avec mes outils, tu vois, il y a plein de peintures aussi.
Donc ça, c'est la plaque à la base.
Oui.
Et après, vous rajoutez la pigmentation.
C'est ça. Et tu vois, tu passes ça sur du papier humide. Donc le papier doit être, c'est du papier en fibre de coton que tu laisses tremper dans de l'eau et pour que les fibres se gorgent d'eau, qui deviennent plus tendres. Et une fois passé sous presse, donc tu vois, tu mets ta plaque, le papier par-dessus, et quand tu passes sous les rouleaux de la presse, donc c'est, tu vois, une plaque, deux rouleaux qui viennent écraser le papier, et le papier vient épouser toutes les formes. On dit qu'il est amoureux de la plaque. Il vient chercher l'encre au fond des creux. Donc tu vois une estampe. Voilà.
D'accord.
Donc là, le masque, c'est celui que vous avez vu à l'instant.
Oui.
La plaque vierge, du vernis, les pointes qui permettent de gratter le vernis, tu vois.
Ouais.
Là, tu vois, le tout jaune, la petite poupée jaune, c'est du, C'est donc ce qu'on appelle de la tarlatane. C'est de la gaze à prêter, comme tu vois les compresses.
Oui.
Eh bien, que tu roules et tu fais une petite poupée avec, le chiffon, là, et ça va te permettre d'absorber l'encre et de l'étaler sur la plaque.
Ok.
On a fait des costumes de théâtre aussi, avec cette étoffe-là.
D'accord. Oui, il y a plein d'outils différents, en fait.
Ouais.
Vous avez des pointes sèches. Parmi les instruments utilisés, il y a également des gouges et des burins. Donc les pointes sèches, c'est vraiment quasiment une pointe de stylo. Hein. C'est ce qui va être le plus fin. La gouge et le burin, on va dire que ça va faire des traits quand même un peu plus larges, en fait. Voilà. Ça retirera plus de matière. Hein.
Mm-hmm, d'accord.
Là, le berceau, ça permet, en fait, de, dans un mouvement comme ça, de va-et-vient, puisque le bout est arrondi, de strier entièrement le fond de la matrice, le fond, de, par exemple, de cuivre ici. Et c'est ce qui est utilisé notamment dans la technique de la manière noire. Enfin bref, voilà. Donc c'est un des outils, en fait, qui est utilisé également en gravure.
Il y a des œuvres qui nous ont interpellés là-bas. Est-ce qu'on peut aller les voir?
Oui, bien sûr. Ouais.
Qu'est-ce que ça signifie?
Béage glace, le voyage bleu.
Le voyage vert,
mais ça.
Et qu'est-ce que ça évoque pour vous?
Eh bien, moi, cette gravure-là, cette série Béage, c'est un peu le début de l'aventure. Je me répète souvent avec ça, mais c'est vrai que c'est la première gravure où je racontais une histoire, et une vraie histoire. Et celle-là, je l'ai envoyée au bout du monde, au Japon, à un grand prix de gravure. Mm-hmm. J'ai été primé, ça a permis à mes gravures de faire Tokyo, Kyoto, Osaka dans des galeries. Et moi, me donner du courage pour me lancer. Quoi. Mais comment dire, là, ouais, Béage, c'est après un voyage aux Philippines. Un premier voyage. Je suis allé voir un très bon ami à moi. Et en rentrant, ben voilà, j'avais un peu le mal du... Enfin,
le mal du pays.
Le mal du pays, du mien et de l'autre. et en fait, ouais, j'ai fait mon île. J'ai fait une île au loin, là, avec ma mer, mon ciel, mes rochers. Enfin, ce que je voyais, quoi, ce que j'en avais retenu, quoi. Et pour moi, c'est plus... Je travaille jamais sur photos, sur croquis, sur quoi que ce soit. Mmh. C'est toujours direct, sans filtre. Parce que enfin, je trouve que c'est plus... Je trouve ça plus puissant,
plus imprégnant,
plus poétique, plus sincère, je sais pas, de le faire au travers de ta mémoire, de ton ressenti, quoi. Et donc c'est un retour de voyage qui a changé ma vie à jamais, hein. Vraiment à tous les points de vue, parce que j'en suis tombé amoureux et que l'aventure a continué. Je suis parti exposer là-bas, j'y retourne dans quelques mois. Cette gravure qui racontait cette expérience, au final, m'a permis d'être là aujourd'hui.
Oui, voilà.
Déjà.
C'est déjà super bien. Vous voyagez beaucoup?
Bah, beaucoup, disons que... ouais, après, ça s'étale sur plusieurs années, mais oui, c'est vrai que c'est... Bah, là, je retourne... Je pars exposer à Mani, cette fois-ci, parce que, justement, on est à côté de Pinatubo. C'est une part de l'histoire, ça. Je suis parti 2 mois et demi de l'année dernière aux Philippines. Pour monter une première expo et organiser, on va dire, un petit peu l'avenir, quoi, ce que je voulais faire, ce que je veux faire dans les années à venir. Et j'ai exposé à Cebu, et après mon expo à Cebu City. Donc c'est un pays archipélique, comme je le disais tout à l'heure. 7200 îles. Vous avez Mani, là, donc, qui est la capitale au nord. Ensuite, il y a Cebu City, qui est au centre de l'archipel. Et donc, on va aller vers Davao, ensuite sur l'île de Mindanao, au sud, quoi. Donc, les 3 grandes villes, on va dire. Cebu, c'est en plein centre. Et après mon expo, on m'a prêté une maison pas loin du Pinatubo. Et le Pinatubo, c'est un volcan qui a fait éruption dans les années 90 et qui a changé tout le paysage du pays.
C'est pour ça qu'il y a ces couleurs rougeâtres un peu.
Ouais, et j'étais entouré d'arbres, donc c'est en gros... Enfin, c'est toute l'histoire, mais... j'étais entouré d'arbres, donc j'ai fait mon panache de fumée en forme d'arbre. Et ça, c'est le bout du continent eurasien. Voilà, mais enfin, chacun voit ce qu'il veut. L'idée, c'est qu'il y a cette place pour tout le monde.
Et, voilà.
Et donc, j'y retourne. Donc, l'expo, ça leur a bien plu. Et là, je compte partir en train.
En train?
Ouais.
C'est long, un petit peu.
C'est un peu long, ouais. C'est un peu long, mais bon, c'est une bonne excuse.
Oui, oui.
C'est une bonne excuse parce que... voilà, encore une fois, c'est pas opportuniste de dire ceci, cela, parler d'écologie. C'est vrai que on peut tout, on peut toujours lier l'utile à l'agréable si on a du temps. Voilà, si on a du temps, c'est toujours le dénominateur commun. Quoi. Et je compte envoyer mes gravures voilà, par bateau, ça met du temps.
Ouais.
Et moi, prendre ce que je voulais faire l'année dernière déjà, mais y aller en traversant la Russie, enfin, traversant Sibérie, Mongolie, Chine,
d'accord,
avec le transsibérien, transmongolien,
oui, oui,
transmanchourien. Et donc, je compte faire ça. Ça me permettra de, ben, voilà, de nourrir autre chose.
Quoi.
Oh là là, oui. Ah ouais, parce
que
je suis
la Bretagne.
Ouais. C'est le grand écart là,
ouais,
entre Bretagne, Sibérie, Philippines.
Et vous avez regardé un petit peu les œuvres des autres artistes qui sont exposés ?
Ouais, ouais, j'aime beaucoup.
Qu'est-ce que vous en avez pensé ?
Je trouve super la diversité. Donc les organisatrices sont vraiment bonne pioche, j'ai envie de dire, parce que d'à côté, voilà, il y a du très figuratif au burin. De l'autre, on va avoir plus de la gravure sur bois, sur lino. Après, on va avoir de l'eau forte également, fonction de Kiko au fond. Et c'est, comment dire, c'est varié. C'est en plus, au-delà des techniques différentes, c'est des univers très différents.
Oui, des univers totalement différents.
Ouais. Et je trouve ça bien parce que parfois, dans les expos de gravure, on peut tomber sur des choses un petit peu. Voilà, enfin qui sont très bien, je veux dire, mais qui mériteraient un peu plus de diversité.
Mm-hmm.
Donc là, c'est.
Il y en a pour tous les goûts.
Il y en a pour tous les goûts, c'est bien, c'est bien.
Bah, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.
Je vous en prie.
C'était très intéressant. On a appris beaucoup de choses.
C'est bien. Mais n'hésitez pas à passer à me rendre visite à Landerneau.
Bah oui, il n'y a pas de souci. Ce sera avec joie.